RFI. Grand reportage, Thomas Arms.
Le Libéria se bat contre Ebola depuis un an maintenant. Le virus a fait près de 3800 victimes dans le pays. Grâce à la mobilisation de la communauté internationale, des autorités et des citoyens eux-mêmes, de nombreux centres de traitement ont ouvert et des mesures d'hygiène draconiennes ont été mises en place sur tout le territoire. Résultat, le pays a vu le nombre de cas baisser de manière importante. Même si le Libéria n'en a pas fini avec le virus, les chiffres donnent de l'espoir. Aujourd'hui, l'ambiance dans le pays a beaucoup changé. Les Libériens réapprennent à vivre. Mais les conséquences d'Ebola vont se faire sentir encore longtemps. Grand reportage de Sébastien Nemeth. Sébastien, que l'on retrouve dans 15 minutes pour en parler.
Ebola Moscow, Ebola doit partir. C'est le message répété par cette chanson écrite dans les 18 langues du Libéria. À l'origine du projet, Sunday Guard Dear Boy, 40 ans, 13 albums à son actif, le chanteur a perdu 19 membres de sa famille, dont sa fiancée, enceinte, tous tués par Ebola. Dans chaque famille qu'il touche, le virus laisse une trace psychologique indélébile. Sunday Guard Dear Boy.
Whenever I think about what happened to me, I get very, very sad and...
Quand je pense à ce qui s'est passé, je suis pris d'une profonde tristesse et je pleure à chaque fois. En fait, quand je dors, je rêve que je pleure et lorsque je me réveille, j'ai le visage plein de larmes. Ça m'arrive chaque nuit. Je n'ai pas la force de retourner dans ma maison. Je loue un autre endroit. Mon domicile est perçu comme une maison hantée. Les voisins ne s'en approchent pas. Moi, je n'y vais plus. Le bâtiment est là, mais il est fermé.
Myself don't want to get around there because of the trauma and stuff like that. So the home is there though, but it's closed.
Afin de surmonter le traumatisme ou du moins l'atténuer, Sunday Guard Dear Boy passe son temps à travailler.
I'm coping. I'm trying to psychologically overcome.
J'essaie de m'en sortir. C'est dur, mais je me bats. Tout ce que je fais, c'est travailler sur des projets en lien avec Ebola. Avec ça, je reste constamment occupé et je pense moins à ce qui m'est arrivé. Mais travailler beaucoup, ça marche seulement la journée. Quand la nuit vient et que je suis seul, j'ai des flashbacks et je me sens triste et affligé.
Un traumatisme psychologique sur les individus et un bouleversement des relations au sein de la société libérienne. Chaque foyer de l'épidémie a entraîné la peur, le rejet. Dans le quartier Claratown, le cas de la famille Namwe est emblématique. Elle a perdu, coup sur coup, 5 membres infectés au cours d'un enterrement. Après cette tragédie, les Namwe ont été rejetés par leur voisin, John, l'un des frères.
Ça s'améliore très lentement. Ce n'est plus comme avant, quand on s'entendait avec tout le monde. Désormais, beaucoup nous évitent ou ont déménagé. Ils pensent que nous avons encore Ebola. C'est dur de se faire rejeter par des gens qu'on connaît depuis tant d'années.
John Namwe est un miraculé. Il n'est jamais tombé malade après avoir pourtant porté le corps de son père mourant dans l'ambulance. En octobre, il pensait que son père était mort d'hypotension ou de sorcellerie. Aujourd'hui, il sait que c'est Ebola. Sawa Toudou est leur voisine pharmacienne. Depuis l'irruption du virus, sa relation avec les Namwe n'est plus la même.
Je n'ai plus peur, mais je ne passe plus par chez eux. Ils ont arrêté de nous parler parce qu'ils disent qu'on les a rejetés quand ils étaient malades. On n'a pas de problème avec eux. Ce sont eux qui ont des problèmes avec nous.
La sœur de John Namwe, Elena, est une survivante d'Ebola. Elle lave le linge péniblement, l'air triste, handicapée par les marques que le virus a laissées sur son corps et sa vie de famille.
Je ressens de violentes douleurs aux articulations, à la tête, aux yeux. Parfois, je ne peux plus travailler. Les gens ici ont encore peur de moi. Beaucoup d'adultes sont morts. J'ai donc maintenant 13 enfants à charge. Ils devront aller à l'école, mais on n'a pas d'argent.
Alertés par leur situation dans la journée, l'UNICEF a dépêché une équipe pour apporter un soutien, notamment aux enfants, dont c'était la rentrée scolaire lundi dernier. Les enfants, c'est l'un des drames d'Ebola. Selon l'UNICEF, le virus a fait près de 5000 orphelins. L'organisation et le gouvernement ont mis en place des structures pour les accueillir dans l'attente d'une adoption. Près de 650 familles en ont accueilli, mais parfois la peur d'Ebola l'emporte et des enfants orphelins mais survivants sont rejetés par leur propre communauté. Dans le quartier de New Georgia, l'église locale a pris en charge 6 d'entre eux, comme la petite Antoinette, 2 ans. En août, on l'a retrouvée avec ses frères et sœurs en brousse, malade d'Ebola. Sa mère, elle, était déjà morte dans leur maison. La Christ Kingdom Harvest Church a aussitôt réagi, comme l'explique le pasteur Prosper Garté.
On a décidé de les prendre avec nous car notre église est comme une famille. On s'est cotisé pour les transporter à l'hôpital, au centre de quarantaine pour acheter un téléphone à l'aîné, pour subvenir à leurs besoins et leur louer une maison pendant un an.
Pourtant immunisés, ces orphelins survivants se sont retrouvés ostracisés par des voisins qui les connaissaient depuis toujours.
Les membres de la communauté étaient contre nous. Ils disaient que les enfants allaient les contaminer. On voulait leur louer une maison, mais le premier propriétaire a refusé. Le second a menacé de casser le contrat. Ces réactions étaient très décevantes. Quand des enfants perdent leur famille, où peuvent-ils aller? Les gens réagissaient par ignorance. Tout le monde était terrorisé à l'époque. On les a sensibilisés et aujourd'hui, nous sommes tous unis.
Réintégrés, les enfants vont maintenant à l'église chaque dimanche avec les autres. Awa, l'aîné de 21 ans, pense désormais à l'avenir.
Je me sens bien, maintenant on nous accepte. Ce que je voudrais, c'est revenir à l'école, mais on manque d'argent pour acheter nos fournitures. On a besoin d'aide.
L'UNICEF a fourni $150 par enfant à l'église, plus une somme mensuelle, notamment pour l'école. Dans un registre plus léger, la vie après Ebola apporte aussi son lot de tracas. Les scientifiques ont démontré que le virus restait dans le sperme plus longtemps que partout ailleurs dans le corps. Les survivants mâles doivent donc aujourd'hui avoir des rapports protégés ou pratiquer l'abstinence pendant 3 mois, comme Alvin Davis, infecté en octobre.
Pour vous dire la vérité, c'est un vrai défi. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait un vrai risque, ça a été un choc. Alors, quand j'ai quitté le centre et qu'un médecin m'a donné une boîte de préservatifs, je les ai tous donnés à mes amis. Car si je les garde, j'ai peur d'être tenté et de faire l'amour à ma compagne et de la contaminer. Pour moi, utiliser une capote, ce serait une grave erreur. Vous pouvez, par inadvertance, toucher votre semence et la transmettre à votre partenaire. Ebola, ce n'est pas comme le sida. Au moindre contact, vous infectez la personne. Je vous le dis en toute liberté, depuis ma guérison, ma fiancée garde ses distances et nous n'avons pas fait l'amour. Je veux prendre mon temps et être complètement guéri.
Alvin Davis a encore quelques semaines à patienter. En attendant, il sensibilise les autres hommes et demande au gouvernement de relayer le message au grand public. Scène impensable, il y a encore quelques mois. 21h, des dizaines de personnes attablées à la terrasse du Old Folk, un bar populaire du quartier Syncore. Le couvre-feu draconien, imposé à partir de 18h, avait quasiment fait disparaître la vie nocturne. Mais avec la baisse du nombre de cas, le couvre-feu est désormais appliqué à partir de minuit. Les Montroviens, comme Robert Jacob, goûtent donc à nouveau aux soirées.
On ne pouvait pas sortir s'amuser. Tout le monde avait peur et c'était impossible d'avoir l'œil sur tout le monde. Sortir comme ce soir, c'était très rare. Cette époque nous manquait. Mais cette mesure, c'était aussi pour sauver nos vies. C'est peut-être grâce à ça que je suis en face de vous maintenant. Bien sûr, je pense toujours à Ebola quand il y a du monde. Avec ma fiancée, on se lave les mains avant de s'asseoir, on nettoie le goulot de nos bouteilles et on boit.
Hector Moulba est assis quelques tables plus loin. Il profite de sa club beer, une bière locale libérienne, mais lui aussi reste sur ses gardes.
C'est un signe que la situation redevient normale et que notre pays se stabilise. Ça ne me manquait pas trop parce que j'ai une famille, me protéger, moi et mes proches, c'était ça ma priorité. M'amuser était secondaire. Dans les lieux très fréquentés, la peur est toujours là. Donc quand tu sors, même si tu veux te relaxer, te vider la tête, oublier le stress, tu ne dois pas oublier que le virus est toujours au Liberia.
But don't forget that Ebola is still in Liberia.
Pour Hector et Roberts, seule l'annonce officielle de la fin de l'épidémie dans le pays leur permettra de profiter de la vie nocturne comme avant. Quelques mètres plus loin, dans un endroit plus discret, des prostituées attendent d'éventuels clients. Elles avaient quitté la rue à cause de l'épidémie, terrorisées par le risque de contact avec un malade. Véronica a 21 ans, elle se prostitue depuis 5 ans. Longue robe de soirée, cheveux courts, elle accepte de monter dans une voiture pour raconter son histoire. Méfiante, elle demande si c'est un piège, puis consent à parler de ses méthodes.
Quand je croise quelqu'un, je demande s'il connaît mon travail. Puis je lui fais préciser s'il veut une séance courte ou une nuit entière à $50. Je préfère aller dans un hôtel parce que certains hommes t'amènent chez eux et soudain t'accusent de vol pour ne pas payer. Alors que dans un hôtel, je peux alerter le manager et même appeler la police.
Mais avec l'arrivée d'Ebola, Véronica a dû renoncer et quitter la rue.
Avant le mois d'août, l'épidémie était modérée. J'avais peur, mais que pouvais-je faire? C'est comme ça que je gagnais ma vie. Puis, en août, ils ont appliqué le couvre-feu. J'ai dû tout arrêter. Je suis partie en brousse, faire des petits boulots. Je suis revenue en novembre, quand le nombre de cas a baissé. Ebola est toujours là. Alors j'évite les clients quand j'ai un doute. De toute façon, quand tu as Ebola, tu es tellement faible que tu ne peux rien faire.
Soudain, Véronica repart. Il est bientôt minuit. Il lui reste quelques minutes pour trouver un client avant le début du couvre-feu. Autre signe que la vie reprend, le sport. Pendant 7 mois, compétitions et entraînements étaient interdits pour éviter les rassemblements. Des interdictions en partie levées. Ainsi, depuis le 2 janvier, le BYC, le club de football des Barack Young Controllers, champion en titre, a retrouvé son stade de Bluefield. Un retour délicat selon le corpulent coach Robert Larte Jr.
On est vraiment heureux que tout le monde soit vivant et puisse rejouer. Le Liberia adore le football, c'est le pays de George Weah. Mais Ebola a tout mis par terre. Au premier entraînement, certains joueurs étaient plus gros que moi parce qu'ils étaient restés inactifs et ne faisaient que manger. Il a vraiment fallu discipliner tout le monde.
Capitaine de l'équipe, Nathaniel Sherman Jr. n'a qu'une hâte, refaire ses preuves sur le terrain.
Avant, on était toujours sollicités, les gens voulaient nous voir, nous parler, nous serrer la main. Mais à cause du virus, je restais à la maison. J'essayais de faire un peu de musculation, mais les pompes et les abdominaux, c'est pas pareil. Les premiers entraînements étaient très difficiles, j'étais en surpoids. Mais maintenant, je suis de retour pour montrer ce que je fais de mieux.
Une joie en partie gâchée. Pour cause d'Ebola, le club a interdiction de jouer à domicile. Sekou Kone, président du BYC, y voit une double peine pour l'équipe.
On se bat contre l'épidémie, on essaie de donner de l'espoir aux gens et on nous empêche de le faire. C'est totalement injuste, personne ne veut propager la maladie. Il y a des mesures d'hygiène possibles à appliquer.
Et pour leur premier match de reprise, en championnat intercontinental, les BYC sont allés faire match nul en Gambie contre le Real de Banjul. Pas mal, après 7 mois sans compétition. La sirène des ambulances. Au plus fort de l'épidémie, elle rythmait la vie des Libériens. Pour aller chercher des malades ou ramasser des corps, elles inspiraient crainte et tristesse. Désormais, elles se font logiquement plus rares, vu la forte baisse du nombre de malades. Une diminution qui crève les yeux quand on visite le plus grand centre de traitement Ebola du monde. Eloua 3, à Monrovia, avait une capacité de 250 lits et employait parfois près d'un millier de personnes. Plus de 1200 patients y ont été pris en charge. 40% d'entre eux ont survécu. Encore récemment, Eloua 3 ressemblait à une usine grouillant de soignants s'affairant près des malades, avec en bruit de fond les sprays désinfectants. Des sections entières de lits sont aujourd'hui des terrains vagues. Samuel Zucker est responsable hygiène. Son équipe a été réduite de moitié.
Au début, on ne se demandait pas combien de temps on allait rester. 1 an, 10 ans, on était dans l'urgence. Maintenant, on retourne à notre ancienne vie. Mais je prendrai d'abord un mois de vacances. pour laisser mon esprit oublier Ebola. Evelyne est infirmière. Elle retire sa combinaison après avoir soigné un jeune de 13 ans, unique malade confirmé du camp aujourd'hui.
En août, je travaillais dans 9 sections différentes et chacune avait 30 lits. On avait tellement de malades. Maintenant, c'est beaucoup moins stressant et je sais qu'un jour, on aura 0 cas.
Mais MSF reste sur ses gardes. En cas de besoin, l'organisation peut augmenter sa capacité à 120 lits en 24 heures. Duncan Bell, responsable du camp.
L'épidémie n'est pas terminée. Un cas peut créer une reprise. Et on ne peut pas baisser la garde. Il reste du travail pour arriver à 0 malade. Et là, on devra encore attendre 42 jours pour déclarer la fin de l'épidémie.
The epidemic is over.
Une vigilance encore indispensable, d'autant qu'avec la baisse des cas, certains malades ne pensent pas avoir contracté Ebola et arrivent trop tard à l'hôpital. Ebola, le Liberia marqué à jamais. Grand reportage Sébastien Nemeth. Réalisation Ludivine Amado.
Sébastien Nemeth, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors, est-ce que le virus est vaincu au Liberia?
Toujours pas. Il existe encore quelques cas d'Ebola recensés chaque jour, moins d'une dizaine généralement. Mais la maladie est encore là, même si elle est moins présente dans la vie de tous les jours. L'an dernier, on était vraiment dans la psychose permanente. Les centres de santé recevaient des malades quotidiennement. Maintenant, beaucoup de ces sites sont vides. Certains ont été démontés, d'autres ont réduit leur capacité. Moi-même, dans ceux que j'ai visités, je n'ai vu que 3 malades confirmés. Cette baisse du nombre de cas redonne de l'espoir, mais elle a son effet pervers, celle d'une baisse de la vigilance. Et on le voit, les gens se touchent davantage, se lavent un peu moins les mains, etc. Et tous les humanitaires le disent, il ne faut surtout pas baisser la garde. D'ailleurs, beaucoup d'organisations qui ont diminué leurs opérations sont prêtes à se redéployer massivement et rapidement en cas de nouvelle flambée.
Mais alors, un retour en force de la maladie, comme on l'a connu l'été dernier, c'est un scénario que l'on peut craindre, un scénario possible?
Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où la baisse de vigilance est propice à un retour. Il y a aussi la levée des mesures de restriction qui entraîne une crainte. Je pense à la rentrée scolaire. Les 5000 établissements du pays étaient tous fermés depuis 7 mois. Ils ont rouvert lundi. Donc on a de nouveau des rassemblements d'élèves, de la promiscuité avec une hygiène pas forcément idéale. Il y a les frontières. Elles sont fermées aussi depuis l'été dernier. L'économie du pays va mal. Elle en souffre énormément. Quand ces frontières rouvriront, que se passera-t-il? En sachant qu'Ebola est plus menaçant côté Sierra Leone. Maintenant, la différence avec la flambée des cas connue à l'été 2014, c'est que la grande majorité des Libériens sait maintenant ce qu'est Ebola et quelles précautions prendre. S'ajoute aussi la présence massive des humanitaires, ce qui n'était pas encore le cas en août dernier.
Et aujourd'hui, Sébastien, l'un des défis également, c'est la reconstruction du système de santé au Libéria qui s'était écroulé en quelques mois. Alors, on en est où aujourd'hui?
Alors, c'est l'un des grands défis, Thomas. En octobre dernier, 50% des cliniques et 60% des centres de santé étaient fermés. Ça s'est amélioré légèrement. Certains établissements ont rouvert, mais il reste un grand déficit de lits. On est à 23% de capacité seulement. Beaucoup de personnel hospitalier a encore peur de traiter des patients envoyés par les centres Ebola. Beaucoup de malades voient encore les hôpitaux comme des lieux où on peut attraper le virus. Donc il y a aussi une confiance à reconstruire. Médecins sans frontières, par exemple, apprend aux soignants à traiter tout le monde comme des malades d'Ebola potentiels, ce qui alourdit les soins. Tout cela va prendre du temps à être remis en place. D'ailleurs, plusieurs ONG plaident pour que l'aide humanitaire se prolonge pendant au moins 1 ou 2 ans après la disparition d'Ebola dans le pays.
Ebola, le Liberia marqué à jamais. Votre grand reportage à retrouver sur RFI.fr. Sébastien Nemeth, merci. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose